Vous écoutez Fréquence Mistral, nous sommes en direct de Manosque pour une émission spéciale présentée par François Malabar.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. Effectivement, c'est une émission particulière présentée en direct de chez Jean Giono et dans le cadre des 10e rencontres de Jean Giono. Et c'est en direct du Paraïs de Manosque. Plusieurs invités qui sont attendus d'ailleurs, ils vivent à l'heure manosquine véritablement, donc on les attend avec impatience. Je vois Jean-Claude Elena, je crois, qui arrive. Et puis notre ami Jacques Ménie, président de l'association des amis de Jean Giono, est à nos côtés. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Ravi d'être ici pour ce 45e numéro de Jean de Manosque, en direct de la maison de Jean Giono, avec cette année un thème très particulier pour ces 10e rencontres, qui était tout simplement au bonheur des sens. Pourquoi les sens ?
On peut faire tous les jeux de mots là-dessus, mais... En tout cas, ça fait sens chez Giono, le sens. Oui, tout simplement parce que je pense que c'est un jouisseur sensuel dans la vie, avec une aptitude particulière. Il le reconnaît lui-même, il l'écrit, il le dit. Il est doué pour les sens, incontestablement. Il a des sens, peut-être même, ça on peut toujours en discuter, mais certainement peut-être beaucoup plus... comment on pourrait dire, Jean-Claude, perceptif, plus éveillé, voilà, l'éveillé, il a un éveil des sens extraordinaire. Alors, c'est à la fois son outil de connaissance, c'est une expression qu'il emploie très souvent, hein, appareil de connaissance. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est pas les sens auxquels on attribue le plus souvent le fait d'être des appareils de connaissance, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Lui, ça va être plutôt l'odorat, le goût et même le toucher. Mais le monde est là, hein, et je suis là pour en jouir avec mes sens. Alors évidemment, comme c'est un grand artiste, un grand poète, qu'il a le génie, le don, mais aussi tout le travail. Lui, il disait qu'il fallait 5 ans pour faire un écrivain, c'est moins que pour 20 ans pour faire un parfumeur, mais ou un créateur de parfums. Mais il en a fait pendant 5 ans, et on le voit dans ses premiers textes, comment il travaille à affiner les images qui viennent des sens, qui sont au départ un peu conventionnelles, issues d'une sorte de répétition de ce qu'ont écrit les symbolistes, de ce qu'ont écrit... Bon, le Comte de Lille était quelqu'un qui a beaucoup marqué sa jeunesse, par exemple. Et après, évidemment, ça va être un beau, toute différence. Et Giono, d'ailleurs, ce que je disais l'autre jour dans ma conférence sur la vue, on connaît la lettre au voyant, la lettre dite du voyant de Rimbaud, le poète deviendra voyant par un dérèglement de tous ses sens, etc. Giono, je pense qu'il avait les sens déréglés naturellement, je veux dire déréglés, mais dans le sens positif du terme, qu'il n'avait pas besoin de provoquer cette dérégulation de ses sens pour percevoir de façon absolument... Enfin, je veux dire, le cosmos à travers les sens. Et lui, c'est vraiment tout marche en même temps. Alors ça, c'est une chose vraiment magnifique. C'est que l'œil écoute, comme disait Claudel, la peau entend, la main voit, et tout marche en même temps. Et c'est ce dont Michel Julien va sans doute nous parler tout à l'heure, dont vous parliez ce matin au cours de cette dernière séance. C'est la façon dont l'odeur fait éclater les murs. Tu te souviens, Jean-Claude, de l'odeur des champignons dans Automne en Trièves, et tout d'un coup, ils deviennent fous et les murs disparaissent.
Et
le printemps naît, oui, c'est ça.
Alors, justement, le printemps naît, c'est un très joli jeu de mots, ça, Jean-Claude. Jean-Claude Elena nous a rejoint, qui est parfumeur et créateur de parfums chez Hermès. Autrement dit, c'est un magicien extraordinaire. Vous avez participé, Jean-Claude Elena, à cette rencontre Giono. Avant de parler parfums, évidemment, parlons littérature. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Giono ?
Ben, disons que la découverte pour moi de Giono est une découverte d'un imaginaire extraordinaire. Et puis, comme il est entré par les sens, puisque c'est évident qu'il rentre par les sens, qu'il fait parler les sens avec des contradictions en permanence. Hein, j'écoute la peau, ou j'entends les parfums. Donc, à partir du moment où il y a des décalages qui nous font approcher beaucoup plus près les sens, pour moi, en tant que parfumeur, c'était très utile. D'autant que la difficulté du parfum, c'est d'en parler. Et la plupart des gens vous disent, c'est impossible de parler du parfum, c'est tellement éphémère, c'est tellement c'est impalpable, etc. Donc on ne peut pas en parler. Il y a déjà une approche déjà négative, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas en parler. Puisque je ne peux pas toucher, puisque je ne peux pas le voir, je ne peux pas en parler. Et lui, par sa littérature, d'abord fait la démonstration inverse, c'est-à-dire forcément il fait appel à la métaphore, mais par la métaphore, je rends les choses sensibles. Et alors oui à la métaphore, et c'est un bon moyen pour appréhender l'essence, le sensible, et pour montrer que l'homme n'est pas que raison, mais que l'essence est une partie très importante. On a, à mon avis aujourd'hui, un peu trop l'habitude d'oublier l'essence et de faire plus confiance à la raison.
Alors justement, chez Giono, il y a beaucoup d'odeurs, c'est vrai, mais ce sont des odeurs réelles, des odeurs aussi bien humaines qu'animales, voire végétales. Pas du tout des odeurs fabriquées, comme ce que vous faites de votre côté. Et vous essayez de reprendre et de créer des parfums qui ont des odeurs justement naturelles, végétales.
Alors, non. Pas du tout. Non, parce que, alors, Giono a une superbe phrase dans de certains parfums qui dit, voilà, les dieux créent des odeurs et les hommes fabriquent des parfums. Donc, entre le créer et le fabrique. Et puis, dans cette petite phrase très courte, toute la notion de parfumerie est contenue. Je veux dire, les odeurs appartiennent aux dieux, les parfums appartiennent aux hommes. Et il y a bien, de la part des hommes, une création. Alors, est-ce que c'est une création pour aller vers les dieux? On peut en philosopher longtemps, mais il y a bien une séparation entre la nature et la culture. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, en tant que parfumeur, la nature, pour moi, n'est que prétexte. Je ne cherche pas à reproduire la nature. En fait, la nature ne m'intéresse pas. Elle est là pour créer des prétextes. Et de là, mon imaginaire olfactif s'en va et se promène et va créer et va rencontrer des histoires. Mais la nature pour la nature, c'est une photographie sans intérêt.
Vous avez vous-même créé un parfum en pensant très fortement à Giono, c'était cuir d'ange.
Oui.
Comment est-ce que vous avez travaillé sur ces odeurs justement particulières?
Alors, cuir d'ange est né d'une phrase de Jean Le Bleu, puisque dans Jean Le Bleu, il y a une phrase où, dès le début, la deuxième page, où il dit « Mon père fabriquait des souliers en cuir d'ange pour des dieux ailés ». Dans la phrase des souliers en cuir d'ange pour des dieux ailés, évidemment, on pouvait entendre Hermès,
évidemment.
Puisque c'était facile à voir. Donc, en fait, ça, c'était le prétexte. La phrase était le prétexte. Et j'avais, depuis très longtemps, ça faisait une dizaine d'années que j'avais dans la tête de retravailler la notion de cuir et l'odeur du cuir. L'odeur du cuir. La notion du cuir, je préfère ça. Et là, avec cette phrase-là, j'avais un prétexte pour venir chez Hermès en disant, écoutez, voilà, je vous offre chez Hermès. D'abord, j'offre à Hermès et ensuite Hermès offre au public. Un parfum qui sent le cuir, et un cuir différent de ce qui se faisait, puisque dans l'histoire de la parfumerie, le cuir est la note cuir est vient des années 1920 avec les ballets de Diaghilev et toute la Russie qui est là très présente à Paris, et on fait des parfums au cuir. Mais le cuir, c'est un cuir qui sent le bouleau, qui sent le goudron. Les cuirs de Russie sont des cuirs qui sont utilisés pour la confection des bottes, pour la confection des malles. Donc c'est des cuirs très durs et qui ne sont pas du tout souples. Et quand je suis rentré chez Hermès, je me suis trouvé dans une maison qui forcément est dans le cuir et qui a des cuirs d'une douceur, d'une souplesse, d'une légèreté étonnante. Je veux dire, vous avez des cuirs qui sont dans la main, comme des feuilles aussi légères que des feuilles de papier et d'une grande beauté. Et à toucher, je veux dire, ces cuirs d'une légèreté, d'une souplesse, d'une tendresse comme ça, d'une caresse qui fait que, oui, c'est ça que je dois exprimer, hein, c'est-à-dire la tendresse, la caresse, le plaisir du cuir. Et donc l'odeur du cuir passe après, mais le cuir devient un prétexte pour exprimer ces sensations.
Autrement dit, les sens sont tous liés aussi.
Oui, les sens sont liés. Les sens sont liés, mais... je reste dans mon domaine. Et je veux dire, si j'utilise des mots, enfin, j'ai besoin des mots pour exprimer ce que je fais, parce que je ne peux pas faire autrement, et parce que pour faire venir le public, pour susciter l'intérêt du public, je suis obligé en tant qu'humain de passer par les mots. Il n'y a pas d'autre manière que de passer par les mots. Alors on peut jouer, oui, on peut faire de la musique, mais est-ce que je pourrais composer un cuir en musique ? Je ne suis pas musicien.
J'allais vous poser le challenge justement, mais combien de temps, Jean-Claude Elena, pour fabriquer un parfum et pour en être satisfait ?
Alors pour fabriquer, ça c'est très rapide. Pour le créer, c'est beaucoup plus long. Pour créer la cuir d'ange, c'est c'est une dizaine d'années de réflexion. Mais ça ne veut pas dire que je prends 10 ans à chaque fois. Sinon, je coûterais fort cher. Là.
Et puis, vous avez des réflexions aussi par rapport à vos parfums. Le public qui ressent, c'est le cas de le dire, des émotions en utilisant vos fragrances, justement. Comment vous les entendez, vous-même, ces réflexions ?
Je crois que c'est comme dans la littérature ou comme dans la musique.
Ce sont des critiques.
Avec critique, avec le côté positif, c'est la réception avec le côté positif de la chose. Et puis, il y a une lecture du public qui est forcément différente de celle que j'ai écrite et que je laisse aller et qui est une deuxième lecture. Donc, c'est très bien qu'une deuxième lecture. Moi, j'apprécie énormément. Quand je rencontre quelqu'un qui me parle des parfums que j'ai fait, j'écoute avec plaisir le discours qui est donné, parce que il n'est pas forcément proche de ce que j'ai fait, mais il le remplit, il élargit ce que j'ai voulu faire. Et donc ça, c'est très bien, c'est merveilleux.
D'être réceptif.
Oui. Et chacun met son histoire. Voilà.
Comme pour le vin.
Comme pour le vin, absolument. Oui. Ou l'huile d'olive.
Merci beaucoup Jean-Claude Elena d'avoir été des nôtres sur ce plateau particulier en direct de chez Jean Giono. Vous avez donné une soirée avec Didier Sandre, cet immense comédien qui était à Manos. Didier peut pas être des nôtres, mais juste avant qu'il ne parte, il m'a accordé une interview. Il m'a un petit peu raconté. Vous allez voir que sa première rencontre avec Giono n'était pas si extraordinaire que cela. On va l'écouter. On vous remercie encore Jean-Claude d'avoir été des nôtres. Didier Sandre.
Merci.
Ce qu'il représente pour moi, c'est initialement un ennui profond dans un atelier de reliure où j'ai passé entre 16 et 18 ans à relier des livres de Giono pour des bibliothèques, parce que avant d'être comédien, j'avais un CAP de relieur. Et cette contrainte de relier pour des bibliothèques les œuvres complètes de Giono m'a un peu éloigné au départ de son œuvre, dont le professeur de reliure de l'école estienne que je fréquentais était totalement amoureuse de Giono. Et ça aussi, pour un adolescent, d'avoir un prof amoureuse d'un auteur, c'est plutôt répulsif que attractif. Et les années ont passé, et là, depuis quelques années, je vous disais que j'étais débutant en Giono, comme en beaucoup de choses d'ailleurs, mais encore malgré mon âge, et que je m'émerveille d'avoir ce champ d'exploration extraordinaire qu'est l'œuvre de Giono, que sa personnalité, son implantation ici en Provence, etc. Et que en entendant parler tous les gens de l'association des Amis de Jean Giono, je m'émerveille de cette terre vierge pour moi à découvrir.
Et vous avez interprété une lecture de Jean Le Bleu avec des musiciens et également sur une scène justement qui porte ce nom de Jean Le Bleu. Je suppose que c'est une émotion particulière.
C'est un peu intimidant, d'autant que Jean Le Bleu, c'est quand même une espèce de biographie, de livre consacré à l'enfance, dans un âge de maturité où il est lui-même en doute et en réflexion, en interrogation par rapport à ce qu'il est. Dans cet âge de la maturité, il retourne sur son enfance. Je crois que tout être humain a jeté ce regard comme ça un peu dubitatif ou admiratif sur là d'où on vient. Jean Le Bleu, emblématique donc de Jean Giono ici à Manosque, et puis le théâtre Jean Le Bleu, oui. Pour moi, le défi était vraiment très très important. Ce soir, nous sommes après la représentation et je vais mieux. Je vais mieux que cet après-midi, qu'hier. Vous savez, les lectures comme ça, en relation avec de la musique, des musiciens. C'est une activité importante de mon travail en dehors de la Comédie française. Et c'est toujours un peu comme le tir à l'arc, on bande son arc, on accumule de l'énergie, on travaille le texte chez soi, sans public, on intériorise, on réfléchit aux coupures ou ce qui va dynamiser l'écoute du spectateur. Et puis après, on n'a droit qu'à une flèche, c'est une fois et jamais plus. Donc évidemment, l'attention, la concentration est très importante, l'enjeu pour moi, parce que en plus ici... Faire une lecture à Manosque devant autant d'admirateurs, de connaisseurs, de chercheurs qui connaissent l'auteur et son œuvre de façon très profonde, tout d'un coup, on se sent un peu saltimbanque comme ça à venir interpréter une œuvre avec beaucoup de respect. On est obligé de donner le meilleur de soi-même, quoi, et on n'est jamais sûr de pouvoir le faire.
Le texte lui-même est un texte magnifique avec un vocabulaire très très exploité et très utilisé, et en même temps des images. C'est très sensuel en fait comme texte.
Très. Enfin, il le dit lui-même, et c'est pour ça que j'ai voulu débuter la soirée par ce texte sur la sensualité. Je suis un sensuel. Dans la phraséologie, dans le vocabulaire, comme ça. Ça a l'air très facile à dire, et en fait c'est une phrase qui est pleine de pièges, parce qu'elle est très digressive, et elle est bourrée d'adjectifs, d'énumérations. Ce qui peut éloigner parfois le sens, la signification, le but de la phrase. Il n'y a pas de problème quand on le lit, c'est un peu comme Proust aussi des fois où on peut se perdre dans la phrase. Quand on le lit, bon... C'est un rapport du lecteur avec l'œuvre. Mais quand on le dit en public, quand on le prend en charge, les problèmes apparaissent. On se dit, mais comment je vais faire cette énumération d'adjectifs sans perdre le but de la de sujet, verbe, complément qui donne le sens de la phrase. Et en même temps, ça, c'est un travail qui m'intéresse, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire parce que c'est un exercice de réflexion, de virtuosité, qui a du sens par rapport à mon métier de comédien, à ce que j'appelle être passeur de texte. Au théâtre, on peut jouer un certain nombre de personnages, mais lire en public des œuvres qu'on aime, qu'on choisit, c'est une autre responsabilité. On n'est pas protégé par un personnage, on n'est pas protégé par un metteur en scène, on n'est pas protégé... par des éclairages, par des vidéos, etc. On est un peu nu, on est soi, dans son rapport au texte, dans son rapport aux mots. Donc, on se met vraiment en danger. Et j'aime ça, mais j'aime surtout ça quand ça marche.
Et c'était le cas ce soir.
Ben, j'ai eu l'impression, on est toujours un peu dubitatif de se dire, mon Dieu, est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai pas fait trop ceci, trop cela, etc. Mais vous me dites que ça a marché, je vous crois.
Et il a bien raison, Didier Sandre, sociétaire de la Comédie Française, qui a donné un superbe Jean le Bleu à la salle de théâtre, donc nommé Jean le Bleu, si bien nommé, à Manosque, accompagné par de merveilleux musiciens et également. C'était une très belle soirée. Nous a rejoint en plateau Sylvie Vigne. Bonjour Sylvie Vigne.
Bonjour.
Vous êtes universitaire et spécialiste de Giono, entre autres. Vous avez évoqué lors d'une conférence le jeu magique des sens dans l'œuvre de Jean Giono, et vous connaissez bien les personnes aussi qui sont privées de sens, de sensation, de sensibilité, de sensualité. Donc le sens chez Jean Giono, c'est fondamental.
Absolument, oui. Et d'ailleurs, la formule « jeu magique des sens » est de Giono. Elle vient donc du Poids du ciel, où il arrive dans une seule phrase à nous priver de sensations en nous envoyant dans le vide sidéral et à nous ramener dans ce qu'il appelle la petite cloque de feu doux où on peut faire jouer pendant quelque temps le jeu magique de nos sens. Mais pour lui, ça ne va jamais de soi, c'est jamais machinal. Il y a toujours un émerveillement sur ce que le sens peut nous donner et toujours une réflexion aussi sur ceux qui en sont privés, qui sont privés d'un sens, parfois de plusieurs, comme son oncle Eugène, dont il a si bien parlé dans le grand théâtre. Et ça fait vraiment partie de sa réflexion sur la magie des sens, de voir qu'on peut, avec un seul sens, accéder à plusieurs mondes, mais qu'on peut aussi, si on est privé d'un sens, se construire d'autres mondes avec les sens qui restent. Presque jusqu'au bout, on a eu une conférence de Marianne Arnaud Toulouse qui a parlé carrément d'un accompagnement, en fait, jusqu'à la mort, en fait. Et elle a parlé de consentir, finalement, sentir avec, mais jusqu'à consentir à ne plus sentir, en fait, puisqu'elle a parlé de la cèse et du régime sans sel, en l'occurrence.
Est-ce qu'on peut dire que Giono a utilisé et réutilisé, mais toujours à bon escient, cette correspondance entre l'humanité et puis l'essence, le fait d'avoir ou de ne pas avoir des sens?
Oui, alors sur des tonalités différentes, mais à mon avis, c'est vraiment un fondamental, une constante de toute son œuvre. Seulement dans les premières œuvres, ceux qui ne sont pas non-voyants, parce qu'il y a déjà beaucoup d'aveugles aussi dans ses premières œuvres, ont accès à un monde absolument pléthorique. Hein. C'est une corne d'abondance de sensations qui leur est livrée. Et avec la maturité, ensuite, il va montrer un monde beaucoup plus avare en propositions sensuelles. Mais il va donc, du coup, transformer ses personnages en ce que j'ai appelé trappeurs de sensations, des gens qui sont capables d'être aux aguets et de fabriquer une perception sensorielle avec un petit rien, une vapeur, une fumée, le reflet d'une avoine, comme il est dit dans Noé, par exemple. Et l'idée étant toujours de construire du bonheur aussi après avoir construit la perception sensorielle.
S'il y a beaucoup de non-voyants et de malvoyants dans l'œuvre de Giono, c'est qu'autour de lui, il y avait beaucoup d'aveugles.
Effectivement, donc il a connu de près cette malédiction, on va dire, et je pense que c'est quand même une peur terrible chez lui d'être gagné lui aussi par la cécité, donc s'étant occupé de sa maman très âgée, s'étant occupé de son frère à elle, donc l'oncle Eugène. Il y a une obsession de tout ce que peut donner la vue et tout ce qui peut nous être retiré avec la vue. Et il a énormément aimé la peinture aussi, donc pour lui, il y a plusieurs mondes qui disparaîtraient. Voilà, tout ce qui est visuel. Voilà.
Et le dessin.
Et vous avez oublié la lecture, chers amis.
Et la lecture, évidemment.
Je la gardais pour la fin de parler.
Évidemment.
Évidemment, la lecture, l'écriture. Il imaginait sans doute très difficilement un monde sans la vue, outre les plaisirs sensuels que lui donnait le monde naturel, tout ce que l'art pouvait apporter à son œil. Et malgré tout, effectivement, ou à cause de ça, les deux sont liés, hein, il va imaginer beaucoup de personnages d'aveugles capables de fabriquer quand même leur bonheur avec d'autres sens et même de donner des leçons de vie, de sens, de jouissance de la vie à d'autres personnages, comme déjà Clara dans Le Chant du Monde.
Un vrai professeur de perception.
Voilà.
De...
Et Kai, qui est tellement attachante dans Meurtre de personnages, qui côtoie quelqu'un qui est par contre aveugle à cause d'une dépression, ça c'est complètement différent, qui n'a plus accès au monde, à la chair du monde, comme dirait Merleau-Ponty, parce qu'elle est enfermée dans son deuil, dans sa nostalgie, dans sa mélancolie.
Oui, c'est les deux plus belles aveugles de Giono, c'est Clara et Kai, oui, c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Giono, évidemment, c'est un peintre. Il faut le dire, c'est un peintre. Son œuvre donne à voir, au combien. Et l'œil, c'est essentiel chez lui. Et ce que j'ai essayé de dire toujours, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand l'œil manque, que vraiment, il nous en parle presque le mieux, et que l'œil n'est pas chez lui, et comme chez nous, presque chez nous tous d'ailleurs, le premier sens de la jouissance. C'est pas celui où la jouissance, l'œil intellectualise immédiatement, où l'œil marche automatiquement, comme dit Diderot, et là-dessus, je suis d'accord, l'œil est blasé, il écrit, et il a quand même cette phrase extraordinaire dans Mort à Venise, dans le chapitre Venise de Voyage en Italie, Giono écrit, à propos de la beauté du silence de Venise la nuit, le soir, qu'un aveugle serait heureux à Venise.
Et je me souviens dans les premiers bulletins Giono, une personne malvoyante lui avait écrit que s'il était, que s'il avait été aveugle, il aurait été un bon aveugle.
Michel Duchny, qui est juste dans l'assistance, nous rappelait aussi lors d'une conférence que Giono disait que s'il n'avait pas été écrivain, il aurait été probablement peintre. Vous y croyez, vous, Jacques ?
Ah j'en veux pour preuve que c'est quand il est, puisqu'on va éditer là, à l'automne, là, l'intégralité des 500 lettres qu'il a écrites à ses parents pendant la guerre, entre 1915 et 1919, c'est qu'il leur, il leur demande du papier, non pas pour écrire, mais pour dessiner. Mon bloc à dessin, mes crayons, vous m'envoyez ça. Et on va publier les dessins de guerre de Giono. On ne peut pas dire, non, que ce soit... non, vaut mieux qu'il ait écrit. Mais n'oublions pas qu'à cette époque-là, bon, écrire, même si déjà à l'époque, il est très critique vis-à-vis de ses petits camarades qui écrivent, ça veut dire qu'il est déjà écrivain, puisqu'il écrit de son ami Battarelle, qui malheureusement va mourir sur le front. C'est sans âme. D'ailleurs, il n'a pas d'âme. Le style, c'est l'âme. Il n'a pas de style. Donc, écrire ça à 20 ans, c'est déjà... Bon, il faut dire qu'il se disputait le premier prix de composition française. Donc, comme Giono devait déjà s'estimer le meilleur, ce qu'il s'est toujours estimé toute sa vie, il faut dire ce qui est quand même.
Ça
l'énervait d'avoir quelqu'un qui passe en tête en composition française. Mais c'est... Ils avaient créé avec l'ami de Louis David, lui aussi qui va mourir sur le front au printemps 1916 en Alsace, ils avaient créé un club artistique, une association donc, et c'était d'abord le dessin leur vocation. C'était un club de artistique, musique et dessin. Bon, Giono, on le sait, à travers Jean Le Bleu, n'avait pas avait eu la passion de la musique, mais pas la passion d'être un interprète ou d'être un savant de la musique. Mais le dessin, ça lui paraissait... Et donc, ça revient très souvent. Je crois sincèrement que ça a été une des options, mais qu'il était, comme il a toujours été très lucide sur ses capacités, il a compris que l'écriture, ce serait sans doute là où il pourrait un jour le mieux s'exprimer. Sinon, faire carrière.
Et c'est ce qu'il a fait, entre nous.
Voilà.
Merci beaucoup, Sylvie Vigne, de votre témoignage et puis de votre éclairage, c'est le cas de le dire, sur, sur cette question. Vous disiez tout à l'heure que les aveugles nous donnent quelque part quelques leçons de vie, ou en tout cas découvrent un univers qui nous est, nous, absolument impensable et inconcevable. Je vous propose d'écouter une chanson qui est une chanson traditionnelle du Poitou, et c'est une chanson qui s'appelle « Le Luneux » sur un aveugle, justement, et vous verrez qu'il y a une morale un petit peu particulière. Ces gens-là sont peut-être ont touché un bonheur particulier. Et c'est Marie Yacoub du groupe Malicorne qui interprète Le Luneux.
Je suis aveugle, on me plaint, et moi je plains tout le monde. Mes deux yeux ne sont plus pleins, car ils ont perdu leur bombe. Dans un malheur comme le mien, tu t'en moques. La chandelle ne vaut rien. Je me lève dès le matin, je m'en vais de village en village. L'un me donne un bout de pain, l'autre un morceau de fromage. Quelquefois par hasard, tu t'en moques. Un petit morceau de là. Je me moque du mercier et de toutes ses cassettes. Je n'use point de papier, encore moins de lunettes. J'ai pour peigne mes 10 doigts, tu t'en, tu t'en moques. Mais de manche pour mouchoir, j'ai mon chien et mon bâton, mes deux compagnons fidèles. L'un me mène à tâtons, l'autre au bout d'une ficelle. N'aimeriez-vous pas bien mieux, tu t'en, tu t'en moques? C'est de guide que des yeux. Si jamais me venait un fils dans cette agréable vie, je prierai bien le bon Dieu, aussi la Vierge Marie. Qu'il lui crève les deux yeux, tu t'en, tu t'en, tu t'en moques. Pour en faire un vieux,
en plateau, le Luneux Malicorne, une chanson sur un aveugle pas si malheureux que ça. Jacques Méni, cette édition qui était consacrée au sens, évidemment, a laissé une grande place aussi à la photographie, qui passionnait Jean Giono.
Bah, disons que tous les aspects des arts visuels, évidemment, l'intéressaient. La typographie, on en a parlé aussi. Alors la photographie, oui, a double sens, c'est-à-dire que il y a à la fois les photographies qui sont mises en scène dans l'œuvre et qui parfois même donne l'idée d'une autre œuvre. Bon, c'est la fin célèbre pour nous, en tout cas amateurs de Giono, de Noé, hein, où tout un projet de roman naît d'une photographie de noces comme ça. Bon, et les pages qu'il consacre à cette photographie sont absolument extraordinaires. Et puis alors, on a voulu traiter cette année avec notre ami Jean Arrouille, dont qui est à la fois un professeur de littérature, mais surtout maintenant célèbre pour la sémiologie de l'image. C'est un des ça a été pendant 15 ans un des animateurs des rencontres photographiques d'Arles. Il est proche de tous les grands photographes du 20e, de la moitié du 20e. Et donc, on a voulu montrer comment Giono avait travaillé avec des photographes ou à partir de photographies, ou ce qui est le cas de Camargue avec Anne Sylvester, qu'on va entendre dans un instant, ou parfois voulant rendre service à un ami photographe qui voulait éditer une petite plaquette de photographie. C'est le cas pour Les Vraies Richesses. Les Vraies Richesses, c'est simplement son ami Cardas qui vit ici, qui est un réfugié allemand, qui a des soucis financiers. Je lui dis, on va faire un album chez Grasset avec vos photos, tes photos, et puis je vais faire une préface. Giono est incapable de faire une préface ordinaire, et ça devient un des essais majeurs de Giono, Les Vraies Richesses. Ça va être Le Poids du Ciel qui va naître de la contemplation des photographies des Alpes faites par de Kérolire. Donc, et il y a enfin, pour ses amis du Rotary Club et pour les œuvres du Rotary Club de Manosque, ce beau livre qui s'appelle Provence perdue, pour lequel Giono là va vraiment être le maître d'ouvrage. C'est lui qui va choisir les photos, diriger presque la prise de vue des photos. Il va suivre l'héliogravure, il va suivre la reliure, il va suivre tout. Et il donnera la totalité des droits de ce livre, encore aujourd'hui. Hein, donc ce livre est de 67. Le Rotary Club de Manosque est propriétaire. On en a fait une réédition en insérant des morceaux du manuscrit, des facsimilés, etc. Une nouvelle édition. Et en montrant les photos des mêmes lieux aujourd'hui en couleur et qui étaient dans la première édition en noir et blanc. Donc il a été le maître d'ouvrage de ce livre de photographie, qui est un grand texte désenchanté sur le passage du temps, sur la mort des civilisations, d'une certaine civilisation en tout cas, que lui a aimé, dans lequel il a grandi, dont il a gardé évidemment la nostalgie, ce qu'il appelle les sorties de la forêt de Brocéliande. Il y a eu plusieurs sorties de la forêt de Brocéliande dans sa vie. La sortie de l'enfance, quand il est obligé d'entrer à la banque, la sortie par la guerre de 14 et d'autres peut-être après. Donc la photographie, en effet, a été quelque chose d'important. Et nous avons ici, dans les collections, dans la maison, beaucoup de collections photographiques, parfois avec d'ailleurs des titres écrits de la main de Giono, où il a mis le titre d'une de ses œuvres sur la photo. On voit ou on voit pas toujours le rapport, mais on ne sait même pas qui sont les photographes. Donc on a vraiment une belle, très belle collection. Alors, ce que je n'ai pas dit pendant ces rencontres, c'est que il y a eu d'autres projets, hein, avec d'autres photographes, mais surtout sont venus ici le photographier les plus grands photographes du XXe siècle. Gisèle Freud, Irving Penn, Blumenfeld, Denis Belon, Zucca, Dieuzède, et Giono aimaient être photographiés, aimaient se faire photographier, jouaient le jeu de façon extraordinaire. Il avait un sens de la communication aussi génial que le sens de l'écriture. Et il a compris tout de suite que pour vendre ses livres, il fallait qu'il devienne un personnage public. Et ce personnage public de son temps se passait avant tout par la photo, plus que bien sûr la télévision ou la radio, qui étaient encore des médiums très très peu utilisés. Et donc il a eu des relations très très fortes avec les photographes.
Alors justement, il y a un photographe qui expose actuellement à Manosque et qui est Hans Sylvester, un merveilleux photographe.
Il
expose à la Fondation Carzou à Manosque. Il est exposé aussi pendant les nuits photographiques de Pierre Vert. J'ai eu l'occasion de l'interviewer en plateau. Et figurez-vous que Hans Sylvester, en 1958, il est venu ici avec une petite pétrolette pour demander, il était tout jeune, il avait 20 ans, pour demander à ce grand écrivain tout simplement de l'aider à publier son premier ouvrage. Et en plateau, pendant les nuits photographiques de Pierre Vert, ça a été la question que j'ai posée à Hans Sylvester. Je vous propose de l'écouter avec une intervention du président des nuits photographiques de Pierre Vert, l'immense photographe lui aussi, il est très grand en plus, Stéphane Kosman. Hans Sylvester, en 1958, un jeune photographe débutant débarque à Manosque, sur une mobilette en plus je crois, et vient voir un grand écrivain, Jean Giono, pour lui demander d'assurer la préface et le lancement d'un premier ouvrage, le premier d'une longue liste, puisqu'il y en a eu au moins 49 autres qui ont suivi après, pendant toutes vos années d'exercice. Quel culot de ce jeune photographe que vous étiez à l'époque d'aller voir ce grand écrivain de Jean Giono. Comment vous est venue cette idée?
Mais en 57, à cette époque, Giono était beaucoup plus lu en Allemagne qu'en France. Et en plus de ça, ça faisait partie de l'éducation. À l'école, on lisait Jean Giono. Ce contact de Giono avec la nature, l'homme dans la nature, ça, c'était, il y avait une sensibilité après la guerre en Allemagne extrême pour ça. Donc, il a eu des tirages vraiment énormes en Allemagne. Et c'était vraiment l'homme pour parler de la Provence. Alors, quand j'ai fait les photos en Camargue et je les ai réunies dans une maquette, j'ai montré cette maquette à un éditeur allemand qui m'a dit, moi, je suis prêt de faire le livre si tu m'amènes un texte, une préface de Giono. Et deux jours après, j'étais en route avec la Vespa et je vais arriver à Manosque. Et alors, j'ai sonné chez Giono, sa femme m'a ouvert. Elle m'a dit, le maître, il travaille. On ne peut pas le déranger, le maître, il travaille. Alors, j'ai insisté un peu, et en disant que je viens de loin, que ça prend que 2 minutes pour lui montrer quelque chose. Et lui, il a attendu ça dans son bureau. Il est descendu. Il m'a ouvert la porte, il a regardé tranquillement la maquette. On a bu le café ensemble et ça y est, j'ai eu la préface.
C'est un souvenir extraordinaire que vous gardez de Jean Giono.
Oui, parce que là, c'est une première rencontre. Mais après...
Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Donc, quand le livre est sorti, je lui ai amené.
C'est Camargue, hein, le livre Camargue, en question.
Une préface vraiment extraordinaire. Je dois dire, il faudrait que tout le monde le lit. C'est fantastique. Et donc, je lui ai amené le livre. Et à cette époque, Giono, il avait publié beaucoup de livres, mais pas de livres illustrés. C'était nouveau pour lui. Donc, un livre avec les photos. Et il a eu vraiment un énorme plaisir d'avoir ça en main. Et c'était très bien imprimé en Helio, en Suisse. Donc, c'était bien soigné. Et il était vraiment heureux. Et après, on s'est vu régulièrement encore. Et chaque fois, c'était...
Toujours ici, à Manosque, au Paraïs, chez Giono.
À Manosque et à Lure.
Et aux rencontres de Lure, évidemment.
Donc, c'était chaque fois ici. C'était... Chaque fois, je suis parti très, très, très impressionné.
Peter Stéphane Kosman.
Je crois que tu as oublié de souligner. Il y a quand même eu un petit nuage ce jour-là, non? On t'a piqué ta moto?
Non, mais oh. non, c'était avant ça. C'est
ils ne sont pas voleurs à Manosque. Allons, non, Stéphane, non. Allons.
C'est arrivé à Marseille.
En plus,
ah, voilà. C'est à Marseille.
Donc, surtout ne pas confondre, Hans, ce grand écrivain qu'est Jean Giono, après vous l'avez côtoyé, vous avez même assuré les photographies, notamment de plateau du film de Jean-Paul Rapneau, Le Hussard sur le toit, et vous l'avez présenté au Centre Giono en 93 d'ailleurs avec Rapneau. C'est pour vous un écrivain majeur, une des rencontres importantes de votre vie.
Mais Giono, pour moi, c'est un des premiers écologistes, en vérité. Il a compris à une époque où personne n'avait compris vraiment la nature, la profondeur de la nature. Giono, il avait compris ça. Et on a les deux écrivains vraiment en Provence qui sont commencés avec l'écologie. L'autre, c'est René Char. Et ça qu'on oublie avec Giono, Giono, il a publié des articles dans le Provençal à l'époque. Très, très dur. Très, très engagé et totalement écologiste. Et c'est pareil avec René Char. René Char contre les fusées. Eh bien, toutes les deux, ils ont utilisé leur connaissance des mots dans un but. Ils ont cherché l'efficacité. Et ils ont été tellement efficaces que les hommes politiques ne leur sont jamais pardonnés.
Et oui, quelque part, il était un précurseur de la décroissance, avec sa lettre aux paysans notamment.
Mais c'est des choses importantes. Aujourd'hui, on parle plus de ça, on ne le fait toujours pas. Mais lui, il a dit des choses comme ça il y a longtemps.
Hans Sylvester, à notre micro, c'était à Pierre Vert, et vous ne l'avez pas vu, chers amis auditeurs, mais Jacques Méni est allé faire un petit saut dans la bibliothèque du Paraïs, et il a sorti, évidemment, pour le plus grand plaisir de tout le monde ici, un exemplaire de Camargue, magnifique ouvrage, avec cette superbe préface de Jean Giono, et d'aussi superbes photos de ce jeune débutant, Hans Sylvester, qu'on a écouté à l'instant. On va accueillir notre nouvel invité, et c'est un écrivain, et pour l'accueillir, on a choisi une petite musique un peu particulière.
Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο
κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
Une chanson grecque, c'est Stelios Katsantzidis qui chantait Hipparcho. Et Hipparcho, eh bien, c'est justement le titre du dernier ouvrage de Michel Julien. Bonjour Michel Julien.
Bonjour.
Hipparcho, en plus vous avez une teinte de micro qui est identique à la couverture de livre. On ne l'a pas fait exprès.
Jaune Poussin. Jaune Poussin.
C'est, c'est un joli ouvrage sur une infirmité très particulière. Les deux personnages principaux de votre livre sont Ilias et Maria, un fils et sa mère. Ils sont tous deux dépourvus de paroles et dépourvus d'ouïe aussi. Ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, en tout cas ne se parlent pas de la manière dont on se parle entre nous. Et c'est une histoire qui nous emmène en Crète, dans les années 80-90, c'est ça ?
C'est pas clairement dit, mais oui, on est à la fin des années 70, au début des années 80, à peu près, oui.
La Crète, vous savez, c'est cette petite bande de terre entre l'Occident et l'Orient, qui appartient plus ou moins aux Grecs, mais surtout aux Crétois. Ilias est pêcheur, la nuit, et il est garagiste, il répare des camions le jour. Comment peut-on réparer des camions et discuter avec des chauffeurs, par exemple, lorsqu'on est muet et sourd ?
Écoutez, moi je ne suis pas sourd-muet.
Ça s'entend.
Voilà, ça s'entend. Je vais assez peu voir mon garagiste qui n'est pas sourd-muet, mais j'ai l'impression que l'un des deux l'est, parce que ça se passe toujours de la même façon. Je lui parle, il n'écoute pas. Et il y a quelques sourires que nous pouvons nous échanger. Ça se termine par une facture qu'il faut payer. Et je ne sais pas comment on arrive à discuter, mais le mot manque. Alors, c'est pas pour ça que j'ai fait de mon personnage crétois un garagiste, pas du tout. Mais voilà, non, il est vrai qu'il y a des métiers qui engendrent un certain dialogue de sourds, je crois. Oui, mon personnage est à la fois mécanicien et non pas au sens où on peut l'entendre, il n'a pas de garage. En fait, il répare des épaves, des vieux poids lourds ou des vieux tracteurs descendus jusqu'à cette pointe extrême de la Crète, puisque ça se passe non loin de Sitia, à l'est, un endroit où il n'y a quasiment pas de route, un chemin en terre qui aujourd'hui a été bitumé. Une fois encore, c'est vrai que ça se passe dans les années 80, à l'époque il n'y avait pas de route. Donc il vit dans une solitude extrême avec sa mère qui, elle aussi, est sourde-muette. Néanmoins, ces deux-là arrivent non pas par des signes, mais arrivent à créer un monde que le lecteur découvre au fil des pages, un monde dans lequel, ma foi, une forme de communication passe, qui est faite surtout par des mouvements de tendresse, je dirais, et non pas par des gestes qui pourraient être pratiques ou autres. Mais voilà, se crée un univers entre eux qui correspond à cette géographie qui est la leur.
Vous avez côtoyé vous-même des sourds-muets ?
Non, absolument pas.
Donc c'est mon garagiste. C'est imaginé. c'est quelque chose. Ce Ilias a-t-il vraiment existé ?
Non. Enfin, il n'a pas existé. J'ai croisé, moi, étant allé en Crète, un personnage bien réel qui était sourd-muet. Je ne sais pas comment il s'appelait. Ça a été au point de départ, oui, de l'idée de ce roman. Mais Ilias n'a pas existé, bien sûr.
Alors, il y a beaucoup de descriptions, des descriptions magnifiques dans votre livre. Par exemple, l'agonie d'un mérou, des choses comme ça qui sont très, très surprenantes. Avec, de mémoire, vous parlez d'une piste de danse alors que c'est le plateau d'une barque où il est en train d'agoniser. Et il est en train de faire une espèce de danse de Saint-Guy où il va crever, le mérou, hein, tout simplement, devant les yeux hagards d'une dorade. Enfin bref, c'est un truc assez exceptionnel. Et comment vous vient cette imagination, justement? Vous avez côtoyé non pas des garagistes, mais des pêcheurs aussi?
Non, des pêcheurs non plus. Non, non.
Il imagine tout.
Bah oui, mais ça ne vient pas comme ça. Enfin, c'est un jeu de construction, chacun a la sienne. Non, je suis obligé de me renseigner énormément sur les terrains dans lesquels je m'avance, à la fois la mécanique, je ne suis pas moi-même mécanicien, la pêche également, je ne suis pas pêcheur, mais voilà, c'est amusant parce que Jacques Médi disait tout à l'heure, quand l'œil manque, c'est là qu'on en parle le mieux. C'est vrai, moi l'image qui me vient, enfin, quand tu disais ça, l'image qui me vient, c'est celle d'un sommelier à qui on bande les yeux, hein, et qui doit reconnaître les vins. Il devient aveugle tout à coup. Et c'est là qu'il en parle vachement bien, le sommelier. Aller choisir des domaines dans lesquels on n'y connaît pas grand-chose, à savoir être un petit peu aveugle sur des... Je dis pas tout, pas complètement tout, mais devoir se renseigner, devoir faire un certain chemin, un certain apprentissage avant d'être autorisé à la parole... Ça crée peut-être, ça facilite quelque chose dans le mode de l'écriture, hein, en tout cas pour moi. Et c'est pour ça que, bon, ces univers, la mécanique, la pêche et d'autres, hein, celui de certains animaux dont il est question ici, celui d'un enterrement crétois. Je me posais un fichu problème, c'était comment, parce que, bon, sans rien révéler, la mère du narrateur décède et il y a une scène d'enterrement. Il a fallu que je rencontre plusieurs personnes qui me décrivent comment se passait précisément un enterrement en Crète dans les années 70-80. J'aurais voulu naturellement qu'il y ait des pleureuses. Il n'y en avait plus, quoique, m'a-t-on dit. Voilà, bon, quand on met les pieds dans des terrains qu'on ne connaît pas, je trouve que c'est merveilleux parce qu'on fait des découvertes. On s'en réjouit soi-même et ça permet de restituer quelque chose peut-être à l'écrit qu'on n'aurait pas réussi à faire si on avait maîtrisé toutes ces choses, ces sujets. Oui.
Alors justement, votre écriture, parlons du style un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai parlé des images. Hein, ce mérou qui est en train de crever sur le plancher d'une barque. Il y a aussi des chats qui attendent, par exemple, le deuxième service. Le premier service, ce sont les abats. Le deuxième service, c'est les arêtes que donneront les personnages qui mangent. Donc il y a pas mal d'humour. Et puis il y a une connotation un petit peu bizarre quand ce garagiste se fait chirurgien quelque part. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure hors antenne. Il fait par exemple des consultations hors atelier avec ces vieux rafiaux là qu'on lui amène, ces vieux camions qui sont en bout de course, des camions amputés. Par exemple, c'est vous qui le dites, des névralgies mécaniques, une atrophie mécanique. De mettre en parallèle comme ça la chirurgie et la mécanique, c'était voulu ou c'est absolument pas voulu?
Pas, c'est vous qui m'en avez parlé tout à l'heure.
Et ça alors
bah, souvenez-vous, je vous ai dit « ah bon ?»
Oui, était-ce un vrai « ah bon »
C'était un vrai « ah bon », oui, c'était un vrai « ah bon ».
Alors
oui,
il y a beaucoup, ouais, beaucoup d'humour aussi dans...
J'ai jamais lu une aussi belle description d'un smirmorque dont on a ôté la remorque. C'est absolument extraordinaire.
Oui,
on le voit, c'est extraordinaire.
Et oui, parce que c'est une image.
Personne ne le fera jamais mieux.
Mais c'est une image qui nous a tous poursuivis.
Absolument.
Gamin, on se demandait comment il tenait debout, ces engins.
Oui,
la
oui.
cabine était plus grosse que l'arrière. Il n'y avait rien à l'arrière. On pensait que le poids devait normalement faire basculer l'engin. Ben non, ça tenait debout. Il y avait une forme de magie dans ces camions qui étaient dénués de remorques.
Et parfois, on les voit même rouler à toute vitesse.
Oui.
Et il y a un autre objet aussi qui a un rôle très important dans votre livre, c'est bien sûr un électrophone portatif. Alors, est-ce que c'est un Tepaz ou un Sono quelque chose? On ne sait pas trop, mais en tout cas, évidemment, Ilias, qui est sourd, ben, il l'utilise d'une drôle de manière, parce qu'il utilise toujours la même face, soit en 33 tours, soit en 45 tours, soit en 78 tours. Essayez, chers amis qui avaient une oreille, d'imaginer la chanson que vous avez entendue au tout début de cet entretien, Hipparchos, en 78 tours, en 33 tours, enfin bref, ça, quelque chose d'assez incroyable. Il raye lui-même son disque pour faire quelque chose. Et cet appareil l'accompagne. À un moment, il croit même entendre, non pas de la musique, il entend du vent, de manière un petit peu particulière. Moi, je voudrais vous lire un extrait, Michel Julien, un extrait où on voit votre humour un petit peu particulier aussi, peut-être même sans vous en rendre compte, par exemple. Il est sourd, c'est entendu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'écrit. Non, mais... Il est sourd, ça, c'est entendu.
Ça, la vanne, elle y était. Quand même.
Bon, je continue. Il est sourd, c'est entendu, mais s'imagine parfois que le reste du monde n'a pas son odorat ou aucun, quand il en a tout seul. Pas de goût, à peu près rien des valeurs du toucher. Il n'est pas loin d'imaginer que pêcher est un sens, il l'a. Que camionner est une faculté, que parler en est un autre, ce qu'il ne sait faire. Que le vent en est un, à mi-parcours de l'ouïe et du toucher. C'est pourquoi le partage entre ce qu'il entend et l'effet sur la peau est peu tranché, d'autant plus indécis que le vent n'est pas à proprement parler du toucher. Palpable, préhensible, il effleure plutôt qu'on ne le tripote. Si vous n'avez pas compris la dernière phrase, il faut lire ce roman pour comprendre ce que veut dire ce vent qui tripote. C'est bien ça, Michel ?
Si vous voulez.
Mais il est sourd, c'est entendu. Alors là, je ne pouvais pas la louper parce que c'était vraiment...
C'est une chose dont on s'est aperçu en blaguant comme ça et en parlant ou même en conversant depuis le début de ces rencontres, c'est que alors, les expressions toutes faites qu'on peut faire, auxquelles on peut donner plusieurs sens à propos des sens, il y a une anthologie à faire parce que c'est vraiment extraordinaire. Hein, je veux dire, c'est extraordinaire. On peut... avoir les choses en main, attention les yeux, etc. On peut faire toute une conversation à partir de phrases toutes faites ou de clichés comme ça où on ne fait intervenir que les sens. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais il faut se méfier parce que quand tu fais une conférence comme j'ai fait l'autre jour sur la vue, je peux pas commencer ma phrase par bon maintenant voyons ce... c'est pas possible. Donc et il faut toujours trouver les mots, ça t'oblige à trouver d'autres mots. Et ça m'a pris beaucoup de temps de trouver des mots. Bon, maintenant, nous allons voir la vue. Enfin, non, c'est pas possible. Alors, il faut trouver autre chose. Bon.
C'était la 10e rencontre, les 10e rencontres Giono. Jacques, on arrive à la fin de cette émission.
Et la fin des rencontres tout court.
Et oui, c'est la fin des rencontres. C'est toujours un moment symbolique et très émouvant.
Oh non, pas du tout.
La 11e.
C'est un moment de repos surtout.
Pour vous. La 11e, Jacques, est en préparation. Il y a un thème déjà?
Oui, en principe, c'est Rome. Rome et l'Italie. Mais Rome, intéressant, parce que d'abord, ça n'a jamais été traité à propos de Giono, spécifiquement Rome, mais ça veut dire Rome de Virgile aux Jeux Olympiques de 1960, auxquels Giono, auxquels Giono assiste, ou peut-être même à la relation amicale que Giono, cet athée, va entretenir avec le cardinal Ottaviani, qui va l'introduire au Saint-Siège, etc. Bref, non, c'est aussi Giono, auteur d'une pièce pour la radio, mais qu'on peut monter sur scène. Peut-être on va le faire avec François Ranciac, Domitien, hein, dont tout le monde dit que c'est l'anti-Caligula, enfin, ça restera à prouver. Bon, c'est Virgile, c'est bon, et c'est l'Italie de Stendhal, et c'est les tout autour, et c'est aussi la Rome fasciste contre laquelle Giono s'élève dans les années 30, signe des protestations, attaque dans le bois du ciel, etc. Donc il y a un regard là, à partir de Rome et autour de l'Italie, c'est Fellini aussi. C'est, bon, voilà. Le cinéma, la littérature, la musique. J'ai promis à Sylvie Giono un concert de musique baroque italienne. Voilà.
On prend rendez-vous et on prépare notre ticket pour l'année prochaine. Ticket pour Rome. Oui. Merci à tous d'avoir été nos invités. Vous retrouverez évidemment cette émission comme les autres numéros de Jean de Manosque sur notre site internet. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Jacques Méni qui nous aide à faire ces émissions. Et puis mon équipe aujourd'hui, autrement dit Patrice, Manu et Michael qui ont assuré la jonction. Dans un instant, les infos nationales et internationales, certainement moins sensuel de RFI. À bientôt.
À bientôt.
Thank you.